Deutsche Welle. Droits et libertés.
Les Iraniens ont voté, les Iraniennes aussi, mais nous verrons que les droits des femmes en Iran sont toujours piétinés, pour ne pas dire inexistants. Je vous parlerai ensuite d'un prêtre, il est catholique, sud-africain, et il a le courage, dans un environnement majoritairement homophobe, d'accueillir dans son église des homosexuels. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce magazine. En cette période d'élection présidentielle en Iran, nous allons donc jeter un regard sur la situation des femmes iraniennes, plus précisément des femmes en prison. C'est une situation que connaît bien la militante Asiyeh Amini. Asiyeh a commencé par travailler dans un journal jusqu'en 2003, avant qu'elle ne découvre une affaire qui va complètement changer sa vie. Elle apprend qu'une jeune fille de 16 ans est en prison parce qu'il lui est reproché d'avoir eu des relations sexuelles hors mariage. Elle risque la peine de mort par lapidation. La journaliste creuse alors un peu plus et découvre que cette jeune fille, Atefeh Sahaleh, a été régulièrement violée depuis l'âge de 10 ans et qu'elle a reçu de l'argent pour se taire.
Malheureusement, le juge a décidé qu'elle devait mourir. Mes recherches ont révélé que l'affaire n'avait pas été suffisamment examinée pour justifier un tel verdict. Mais nous avons une loi terrible qui fait que l'on peut mourir uniquement parce qu'on a eu une relation sexuelle.
Asiyeh écrit alors un article, mais son journal n'ose pas le publier. Elle trouve un avocat pour la jeune fille et soutient sa famille, mais elle ne peut pas empêcher l'exécution. Elle s'aperçoit ensuite que beaucoup d'autres femmes sont exécutées par lapidation, en secret, car sous la pression internationale, l'Iran a officiellement annoncé la fin des lapidations. Asiyeh va alors militer de plus en plus pour les droits des femmes. Elle perd son travail de journaliste, passe dans la clandestinité et en 2008, avec d'autres femmes, elle lance une campagne, la campagne contre la lapidation qui a sauvé beaucoup de femmes. Cela dit, elle se rend compte que la discrimination de la femme en Iran est ancrée dans la législation. Elle a rencontré dans les prisons des femmes qui avaient résisté à leurs violeurs et avaient été pour cela condamnées à mort pour impudeur. D'autres avaient été victimes de violences domestiques et ne pouvaient y échapper.
J'ai rencontré des femmes qui avaient tué leur mari parce qu'elles ne pouvaient pas divorcer. Elles le voulaient, mais on leur refusait le divorce et leur famille ne les soutenait pas.
Il faut ajouter qu'en Iran, l'âge de la majorité pénale est de 9 ans pour les filles. Vous m'avez bien entendu, 9 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. Une femme iranienne, quand elle veut travailler ou voyager à l'étranger, doit avoir l'autorisation de son mari, lequel est autorisé, comme ailleurs en islam, à avoir 4 épouses. De l'avis de la journaliste iranienne en exil, Mitra Shojaei, la situation des militantes iraniennes a encore empiré sous Mahmoud Ahmadinejad.
Beaucoup de femmes sont en prison, d'autres sont parties à l'étranger. Et celles qui restent en Iran ont peur. Elles sont surveillées 24 heures sur 24 et ne peuvent rien faire.
Cette expérience, Asiyeh Amini l'a également faite en 2009, avant donc la réélection d'Ahmadinejad.
My life was under control.
Ma vie et toutes mes activités étaient contrôlées. Nous ne pouvions pratiquement plus travailler, mais on essayait. C'est devenu encore pire après la réélection. On ne pouvait plus se contacter par téléphone, on ne pouvait plus envoyer de SMS, on ne pouvait même plus se rencontrer.
Et 4 mois plus tard, Asiyeh Amini a quitté son pays. Aujourd'hui, elle ne croit guère à un changement de la situation politique en Iran. Le changement, dit-elle, ne viendra pas des élections, mais des citoyens. « L'évêque catholique de Durban, en Afrique du Sud, Wilfried Fox Napier, s'est laissé aller il y a quelques semaines à ses propos dans une interview. Si des États comme les États-Unis subordonnent leur aide à l'exigence d'accorder les mêmes droits aux homosexuels, c'est une nouvelle sorte d'esclavage, a-t-il déclaré. Quand il a entendu ces propos, le prêtre catholique Russell Polite est allé dans son église de la Trinité, dans le centre de Johannesburg, et il a enregistré un message vidéo.
Ici, dans l'église de la Trinité, nous créons un espace dans lequel tout le monde est le bienvenu. Nous avons un groupe de lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexuels qui se rencontrent ici régulièrement.
Il faut du courage pour délivrer ce genre de message quand on est prêtre catholique en Afrique du Sud. Sur le papier, l'Afrique du Sud est certes l'un des rares pays d'Afrique à accorder aux homosexuels les mêmes droits qu'aux hétérosexuels. Depuis 2006, elle autorise aussi les unions entre personnes de même sexe. Dans la réalité, pourtant, la société reste très homophobe. Le prêtre Russell Polite en est conscient.
En réalité, les homosexuels sont souvent harcelés, ils sont en marge de la société et sont victimes de violences, par exemple par les viols dits correctifs, quand un groupe d'hommes viole une lesbienne, prétendument pour remettre la femme sur le droit chemin. C'est donc quelque chose qui n'est pas accepté par la société.
Le prêtre s'est donc fait des ennemis quand il a créé dans sa paroisse, il y a 5 ans, un groupe d'homosexuels qui se rencontrent une fois par semaine.
Nous tentons d'aider les gens en leur disant « tu peux faire partie de la communauté chrétienne, l'homosexualité n'est pas un motif d'exclusion ». Nous essayons de leur donner une place où ils peuvent vivre comme chrétiens homosexuels, mais aussi échanger leurs expériences. Beaucoup de ceux qui viennent chez nous ont été traumatisés, ils ont été rejetés par leur famille, chassés de leur pays, simplement parce qu'ils ont dit qu'ils étaient homosexuels. Ils se rencontrent ici pour en parler, pour s'aider mutuellement.
Russell Polite a reçu des lettres d'insultes, certains fidèles ont quitté la communauté et plus d'un de ses collègues voit son engagement d'un mauvais œil.
Certains nous soutiennent beaucoup, mais il y a aussi des prêtres qui nous désavouent en disant « les homosexuels sont les bienvenus dans n'importe quelle église catholique, alors pourquoi une institution spéciale ?» Mais nous savons que ce n'est pas vrai. J'ai déjà entendu dire que des prêtres, dans leur sermon du dimanche, ont dit que l'homosexualité est quelque chose de négatif. Cela ne vous donne pas le sentiment d'être le bienvenu.
Russell Polite, lui, veut accueillir tout le monde, c'est écrit en lettres majuscules sur le site internet de sa paroisse.
Ce que j'essaie de faire aussi, c'est de changer les mentalités, pas chez les homosexuels, mais chez les autres, car beaucoup de ceux qui ne connaissent pas d'homosexuels ou de malades du sida ont des préjugés. Chez nous, ils font la connaissance d'homosexuels, ils parlent avec eux, travaillent avec eux dans la paroisse, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de différence. Ce sont aussi des êtres humains. Ils ont peut-être une autre orientation sexuelle, mais je peux être ami avec eux.
Russell Polite ne fera sans doute pas carrière au sein de l'Église catholique, il en est conscient, mais il précise aussi qu'il n'a pas besoin de devenir évêque. La Russie aurait bien besoin de prêtres de la trempe de Russell Polite pour faire évoluer les mentalités. La Douma, la chambre basse du Parlement, a adopté la semaine passée une loi qui interdit la « propagande » entre guillemets homosexuelle à destination des mineurs, une façon détournée de s'en prendre à une minorité. Alors la Chambre haute doit encore voter cette loi qui, pour entrer en vigueur, devra encore être signée par le président Poutine. Mais je vous l'ai dit, c'est une atteinte directe aux droits d'une minorité et à Strasbourg, le Conseil de l'Europe ne s'y est pas trompé. Il appelle la Russie à renoncer à cette loi jugée manifestement discriminatoire à l'égard des minorités et qui légalise les préjugés. La Russie est membre du Conseil de l'Europe depuis 1996. Elle est tenue à ce titre de respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Europe encore, mais Union européenne cette fois, puisque le Parlement européen a approuvé la semaine dernière un ensemble de textes législatifs qui réforment le droit d'asile ainsi que les règles applicables aux frontières intérieures de l'Union européenne. Alors nous en retiendrons premièrement que les contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen pourront être portés à 6 mois sous réserve d'une évaluation de la situation menée sur le terrain. Jusqu'à présent, les contrôles pouvaient être rétablis pour un maximum de 30 jours. Le deuxième point à noter est que les demandeurs d'asile, après cette réforme, gagnent le droit de voir leur demande examinée dans un délai de 6 mois, sauf situation particulière, et qu'ils pourront obtenir un permis de travail au bout de 9 mois. Des normes d'accueil et d'hébergement minimales leur seront par ailleurs garanties. Ils ne pourront plus être renvoyés vers le pays par lequel ils ont pénétré dans l'Union européenne s'ils sont susceptibles d'y être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. L'Union européenne se met ainsi en conformité avec un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle avait estimé en janvier 2011 que la Belgique ne pouvait renvoyer un réfugié afghan vers la Grèce, pays où les conditions d'internement des très très nombreux réfugiés sont réputées épouvantables. Nous voici arrivés maintenant au terme de ce magazine Droits et Libertés. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Au micro, Marie-Ange Piron.